Alors, on va commencer Bezrat Hashem, notre sixième cours sur le chapitre 33. Dans le chapitre 33, on parle de la vraie Simcha. Rappelez-vous, on s'arrêtait longuement sur la vraie Simcha. On a donné plusieurs exemples dans le cours précédent. Et je pense que ce qu'on peut retenir, si on devait résumer en un mot, on a expliqué que la plus grande Simcha qu'on puisse avoir, c'est le fait qu'on se rend utile devant Akadosh Baruch Hu. Que, aussi petit qu'on est, et aussi grand qu'Akadosh Baruch Hu soit, Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il a besoin de nous et qu'on lui rend service quand on fait une mitzvah. Et ça, juste ça, cette pensée à elle seule doit suffire pour nous procurer une simcha extraordinaire. Et on avait dit que « Veze kol adam vetachlit briato » que toute la création de l'homme, le but de la création de l'homme, c'est quoi? C'est afin que l'homme comprenne qu'il est là pour servir à Kadosh Baruch Hu, et ça, c'est de lui procurer une simcha extraordinaire. Alors, on avait terminé la semaine dernière en disant que c'est vrai que Moshe Rabbeinu nous a enseigné 613 mitzvot, mais est venu Habakkuk, vous vous rappelez de Habakkuk, le prophète, et il a résumé toutes les mitzvot à une seule mitzvah, qui est la mitzvah de la Emouna. Alors, non pas que Habakkuk est en train de nous dire que dorénavant, on fait qu'une seule mitzvah sur les 613, et que le plus important c'est le cœur, et que ce qui compte c'est d'y croire, etc. Ça c'est pas chez nous, ça. D'accord? On l'a expliqué la semaine dernière.
C'est beau, hein?
Bien sûr. Il est évident. Oui, alors, on va dire le cours pour la réfoua shlema de
Israël
ben Yaakov. Il est évident qu'il faut accomplir les 613 mitzvot. Seulement, ce que Habakkuk voulait nous dire, c'est que si tu as réussi à te convaincre de la Emouna, que ce que tu fais, il y a un but, ça sert à quelque chose, toutes les mitzvot après c'est du gâteau. Le plus difficile en vérité, c'est de se convaincre que ce que je fais sert à quelque chose. Je pense que toute personne, qu'il soit enfant, qu'il soit adulte, qu'il soit plus âgé, ce qui le dérange tout le temps, c'est de se poser la question, finalement, à quoi sert ce que je fais? Est-ce que ça sert à quelque chose? Pas pour avoir un Gan Eden, ça c'est bon, ça. Ben, ça c'est après ça. Je parle, à quoi je sers? Qu'est-ce que je fais? Et là, on te dit, tu dois avoir la simcha de te dire qu'en vérité, tu construis. On construit quelque chose d'extraordinaire avec un Kadosh Baruch. Alors, ça, c'est ce qu'on a expliqué longtemps. Maintenant, on va parler aujourd'hui d'une autre raison pour laquelle on doit être Bessimcha. Odzot. Donc, je suis à l'étude du 13 Adar. Odzot, page 97. Odzot, Ismar Bekiflaim. Bon, on va commencer par une boisson pour enfants. Bon, on va te donner le problème, chocolat et
d'or. On a affaire à des enfants. Pas sérieux.
Qui c'est qu'est-ce
quand même, il est pas plus. Bachir arrive et on se contente de.
Il n'empêche pas l'autre.
Tiens, ça se bombe, c'est barré. Du
Schweppes, ça bon. C'est David. C'est pas... À défaut de Schnapps, du Schweppes. Voilà.
Une goutte.
Ça va
être difficile. Hein.
Moins que tout le monde. Hein. Voilà, stop. Merci.
97. Mais ah, pas du tout. Non, non. Tout le monde est servi? On va parler de l'Aliya aujourd'hui.
Ah, ouais, mais c'est sans doute pas l'Aliya auquel tout le monde pense.
Si, si, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas.
C'est la vraie Aliya.
Le Chaim.
Moi, j'ai besoin de venir.
Odzot. Odzot ismar bekiflaim. Raison supplémentaire pour laquelle on doit être Bessimcha. Pas seulement du fait que j'habite avec Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu habite avec moi. Bessimcha tachem vegodel nachad ruach lefana vidbarer bemunazo. Alors, c'est intéressant ce qu'il va développer aujourd'hui. Vous savez, avec Kadosh Baruch Hu, c'est comme notre père. Et un père, il est content quand il voit que son fils, il avance. Quand Kadosh Baruch Hu voit que la Emouna emplit toute notre personne, mis à part le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est content qu'on fait son travail, etc., Kadosh Baruch Hu, le fait même qu'il voit un juif empli de Emouna, ça même déjà, ça le rend content. Parce que c'est le chidouche qui développe ici, mais ça, il faut qu'on développe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ici. C'est-à-dire que là, on essaye d'expliquer plus profondément ce que Habakkuk a dit. Habakkuk a dit que toutes les mitzvot se résument finalement à une mitzvah, la Emouna. Pourquoi? On a expliqué la semaine dernière, si tu as la Emouna, automatiquement tu feras toutes les autres mitzvot. Mais là, il va plus loin que ça. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il a un très grand plaisir quand il voit que tout notre corps est empli de Emouna, au-delà des mitzvot qu'on fait ou qu'on fait pas. Lorsqu'il voit qu'on est empli de Emouna, Akadosh Baruch Hu est très content. Pourquoi ? Deit kafia sitra achara mamash. Parce que ça, c'est un indicateur. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il voit un juif qui est croyant, et qui est croyant dans tout son être, c'est un indicateur qu'on a réussi à pousser, du moins chez cet homme, le côté du mal. C'est quoi le côté du mal ? Le côté du mal, c'est que lorsqu'une personne, lorsqu'on est tous créés, alors, malheureusement, on n'est pas forcément croyant. On croit que à ce qu'on voit, que à ce qu'on touche. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et avec le temps, on grandit, et on fait un effort, on se travaille, pour se dire, même si je ne le vois pas, en vérité, il y a un Dieu qui dirige ce monde. Et c'est difficile, parce qu'en vérité, on se bat contre le monde. Parce que la nature du monde, c'est Dieu qui l'a créé. Et cette nature du monde est une nature dans laquelle Dieu est caché. Donc moi, lorsque je me convainc que Dieu est présent partout, je suis en train de me battre contre la nature. Une nature qui n'est pas forcément bonne. Lorsque j'ai réussi, it kafia sitra achara. Je suis en train de pousser le mauvais côté. Alors ce qu'il explique ici, l'Admor HaZaken, dans les commentaires, il dit que, vous savez que le Zohar explique souvent cette idée, qui est la notion de microcosme et de macrocosme. Ça veut dire que ce qui se passe dans le corps humain se passe dans le monde entier. Par exemple, on sait que le corps humain est composé principalement de liquide. De la même façon, la planète est composée principalement d'eau. C'est une réalité, ça ne change pas. D'accord. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de similitudes entre le microcosme, le macrocosme, etc. Même dans les mitzvot, par exemple, Dieu nous a demandé de construire un Beit HaMikdash, on construit aussi un Beit HaMikdash intérieurement. Alors, de la même façon que dans le grand monde, il y a le bon côté et le mauvais côté. Et malheureusement, le côté qui gagne en général, c'est lequel ? C'est le mauvais côté. C'est comme ça. Le côté obscur de la force, si tu veux appeler ça comme ça. On est encore dans Pourim. Alors,
c'est plus facile.
Oui, parce qu'il a un avantage naturel. Il a un avantage naturel. Alors ça, c'est, d'accord ? Ça c'est dans le grand monde. De la même façon, quand on rentre dans le macrocosme chez l'homme, quand on rentre chez l'homme, et bien de la même façon, il y a aussi le côté sombre, le côté obscur, comme il a dit, d'accord ? Et il y a le côté lumineux. Le côté lumineux, c'est ma neshama, mon âme divine. Le côté obscur, c'est mon yetzarara, c'est la nature, et c'est le côté non-croyant que j'ai en moi. On a tous en nous un côté croyant et un côté non-croyant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'au fond de nous, il y a le côté juif, croyant, rabbin, etc. On est tous des tzadikim ici autour de la table. Et il y a un autre côté dans lequel tu as un petit rachat, au fond de toi, chacun de nous, qui est non-croyant. Et de la même façon que dans le grand monde, il y a toujours la guerre entre les forces du bien et les forces du mal, de la même façon dans mon corps, il y a la guerre entre les forces du bien et les forces du mal. Ça veut dire que lorsque je vais venir à la synagogue et que le rabbin va me dire, tu sais, il faut avoir la Emouna, que c'est Dieu qui dirige le monde, et que si tu vas pas travailler à ce moment-là, tu vas gagner plus d'argent, etc. Alors il y a une petite voix au fond de moi qui me dit, oui, il a raison, c'est vrai, il faut écouter. Il a raison, il faut avoir la croyance. Et une autre voix au fond de moi qui dit, mais laisse tomber, raconte n'importe quoi celui-là. Et qu'est-ce que je fais ? Lorsque je fais un effort pour ne pas écouter la mauvaise voix et écouter la bonne voix, écouter la voix qui me dit que non, on va avoir la Emouna, et ben d'une certaine façon, je change le monde. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, il dit comme ça, le roi Salomon, il dit, « Gam et ha'olam natan belibam. » Dieu met le monde entier dans notre cœur. Ça veut dire que lorsque moi, je fais un effort intérieurement pour repousser le mauvais côté et laisser ma Emouna s'exprimer, eh ben quelque part, j'aide à ce que dans le monde aussi, le mal va moins arriver à s'exprimer. Donc je vais contribuer à réparer et arranger le monde, simplement en ne pas écoutant mon Yetzara. Alors, vous comprenez que lorsqu'on explique comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande d'avoir une Emouna qui n'est pas si simple, et qu'on va le faire, qu'on va réussir. Akadosh Baruch Hu, il est une extraordinaire, parce qu'il se dit, mais tu t'imagines, je lui ai demandé quelque chose, c'était pas gagné, c'était pas facile, c'était difficile, et il a quand même réussi. Alors c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu a une simcha. Veit aper hashocha l'inora. Akadosh Baruch Hu a une simcha quand il voit qu'on réussit à transformer l'obscurité de ce monde en lumière. Alors je suis trois paragraphes avant la fin de la page 97. Sheu rocher haklipot shebeolam azé achumri. Que ça, il s'agit là de l'obscurité, du mal, des forces négatives qui se trouvent dans ce monde. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Elles vont toujours régner, d'accord ? Amar Shichim, ou Machasim al Oroit Barer, qui vont obscurcir et recouvrir et cacher la lumière divine, ad et sketch, jusqu'à le moment de la venue de Mashiach. Ça veut dire que tant que Mashiach ne sera pas là, les forces du mal auront toujours un avantage naturel. Et de la même façon, notre Yetzer Hara aura toujours un avantage naturel sur notre Yetzer Tov. Deinu, ça veut dire, ket sayamin, j'accélère volontairement parce que je vais arriver à la suite. Donc, ce qu'explique ici la Gemara Zaken, c'est que une raison supplémentaire d'être besimra, une vraie simra, premièrement parce que je me dis que quand je fais les mitzvot, j'habite avec Dieu, et quelqu'un de aussi petit que moi habite avec Dieu, c'est extraordinaire. En plus, je procure une joie extraordinaire à Kadosh Baruch Hu, parce que Kadosh Baruch Hu dit, regarde, celui-là, la vérité, qu'il fasse les mitzvot, c'était pas le choix naturel. Et il l'a fait. Franchement, kol hakavod. Franchement, bravo. En le faisant, je me change ma personne, et je change également le grand monde. D'accord? Et c'est ce qui explique ici, que tant que Mashiach n'est pas là, les forces du mal auront toujours un avantage naturel, malheureusement, jusqu'à ce que Mashiach va venir. Maintenant. Maintenant, on va parler, tout à l'heure, j'ai dit que j'allais parler de l'Aliyah. D'accord? Pourquoi je vais parler de l'Aliyah? Parce que justement, on va parler ici. Il va expliquer que la lumière, écoutez bien ce que je vais dire, la simcha qu'on va avoir lorsqu'on arrive à faire sortir la lumière de l'obscurité est une simcha qui est plus grande lorsqu'on se trouve en diaspora que lorsqu'on se trouve en Israël. Pourquoi? Il faut qu'on explique. Parce que normalement, on dit qu'en Eretz Israël, Dieu éclaire plus. Vous savez, comme ça, il est écrit. Ça veut dire que les forces du mal ont un avantage naturel encore plus fort en diaspora. En diaspora, ça veut dire en dehors d'Israël, qu'en Israël. Et donc, c'est pour ça, il s'adresse ici à des juifs comme nous, qui sont pas en Israël, qui sont en diaspora. Dans lequel, si déjà en Israël, c'est pas facile d'être un juif religieux, quand on est en France, c'est encore plus difficile d'être un juif religieux. C'est encore plus difficile de faire passer la Emouna au-delà de la logique. C'est beaucoup plus difficile. Alors, lorsque je réussis à le faire, je procure une simcha à Kadosh Baruch Hu, une joie extraordinaire, encore plus grande que la simcha que produit un juif, que peut produire un juif israélien. Maintenant, il faut qu'on rentre, il faut qu'on développe qu'est-ce que c'est Eretz Israël, qu'est-ce que c'est la diaspora. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui vont me dire ici, nous, on pense le contraire. On a plus de mal à servir un Kadosh Baruch Hu en Israël qu'ici en France. Et ils ont raison de penser comme ça.
C'est
pourquoi? Pourquoi? Non, bien sûr. Parce que ici, il y a une séparation naturelle. D'accord? Bah oui. Il y a une séparation naturelle. C'est-à-dire qu'il y a un cloisonnement naturel. Naturellement, qu'on le veuille pas, on s'enferme dans un ghetto. On s'enferme. Parce qu'on sait très bien que dehors, c'est des goyim. Donc on reste entre nous. Mais en Israël, c'est que des juifs.
Oui, mais pour les fêtes, c'est plus facile.
Oui, c'est plus facile pour prendre les fêtes. Bon, je parle au jour le jour. Donc, comment expliquer ça? Donc en fait, ce qu'on va devoir expliquer maintenant, quelle est la différence entre Eilat, c'est pas forcément Eretz Israël. Je suis sérieux, hein?
Alors.
Et c'est tant mieux. Alors.
Pas la réalité, c'est sûr.
Alors, ce qu'on va expliquer maintenant, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est pourquoi dans la terre d'Israël, normalement, c'est plus facile à servir à Kadosh Baruch Hu qu'en dehors d'Eretz Israël. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait quand on est en France? D'accord? Alors, juste, avant d'avancer dans la suite de parler d'Eretz Israël, je voudrais d'abord vous expliquer que, même si des fois les choses ne nous paraissent pas comme on les présente, mais la Torah nous présente la réalité telle qu'elle est vraiment. Je vous donne un exemple. Par exemple, il est écrit qu'en été, il est plus facile de servir à Kadosh Baruch Hu qu'en hiver. Pourquoi? Parce que comme en été, le soleil brille plus fort, le soleil, c'est le symbole de la puissance que Dieu nous donne. Et comme ça, il est écrit très clairement dans le Zohar, il dit qu'en été, c'est plus facile à servir à Kadosh Baruch Hu qu'en hiver. Est-ce qu'on le voit sur le terrain, ça?
Pas du tout.
Pas du tout. C'est le contraire. C'est l'inverse.
D'accord? Alors, ça veut dire que le Zohar s'est trompé? Non, il s'est pas trompé. Ça veut dire que, bien sûr que si tu vas aller à la plage, alors bien sûr, évidemment, ce sera plus difficile, il n'y a pas de question. Mais, il y a quelque chose dans l'été, il y a quelque chose dans le soleil qui éclaire, qui peut t'aider à servir à Kadosh Baruch Hu mieux qu'en hiver. D'accord? C'est un exemple. Maintenant, on va revenir à Eretz Israël.
Alors, on dit la fête de Tout Béaf.
Pourquoi?
On dit que Tout Béaf, c'est une grande fête parce que les nuits s'allongent.
Ah, donc on va rajouter l'étude de la Torah. D'accord? Bien sûr.
Elles sont allégées d'une heure d'un coup, regarde.
Là, il fait encore un. Là, il fait nul, là, ça y est, enfin, ça y est, il fait enfin nul. Alors. Ou Bifrat, on va essayer d'expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en diaspora. On va tourner la page. On est à la page 98. ובפרט בחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא a une simcha particulière. Une simcha particulière. Lorsqu'on réussit à développer et à dévoiler notre emouna, encore plus si on réussit à le faire quand on est en diaspora, bechutz la'aretz, en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi ? Parce qu'en dehors d'Eretz Israël, l'atmosphère est impure. Pourquoi ? En Eretz Israël, il est écrit dans la parasha Va'etranan que la terre d'Israël, c'est une terre dans laquelle Ene Hashem Elokechaba. Mais Reshit Hashana v'Adacharit Shana, ça c'est pas écrit dans le texte. Il est écrit que la terre d'Israël, c'est une terre sur laquelle les yeux de Dieu sont rivés sur cette terre depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que ça veut dire qu'il ne se passe rien sur cette terre? Pas du tout. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est une terre dans laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous regarde plus qu'ailleurs. Quand on se trouve en dehors d'Eretz Israël, on sent moins la présence d'Akadosh Baruch Hu. Chez Avir, d'ailleurs, c'est pour ça que dans la Gemara, la terre d'Israël est appelée le palais du roi. Alors que quand on est en dehors d'Israël, on est en dehors du palais. Alors on est toujours dans le domaine du roi, dans le royaume, mais on n'est pas dans le palais. Sheavir Eretz Amim, que l'atmosphère de la terre des nations, tamé, est impure, ou malek lipot vesitra achara. L'atmosphère que tu respires, l'atmosphère qu'on respire tous ici, est une atmosphère qui est impure, et qui est plein de clipot, c'est-à-dire de forces négatives et de forces obscures. Ça, c'est même sans faire d'avérot. Ça veut dire que le fait même de respirer l'air en dehors d'Eretz Israël, déjà, ça t'alourdit. Ça te rend plus difficile l'accomplissement des mitzvot. Alors, vous savez que ça, c'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on est en Eretz Israël, on fait un jour de fête. Et lorsqu'on est en dehors d'Eretz Israël, on fait deux jours de fête. Alors, il y a la raison qui est amenée dans la Gemara, etc. La raison qui est amenée dans la Gemara, c'est parce qu'à l'époque, le temps que l'information arrive, est-ce qu'il y avait un jour, deux jours de Rosh Chodesh? Cependant, le Khatam Sofer, aujourd'hui, il y a plus de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on a un calendrier de toutes les façons qui est basé aujourd'hui. Je peux te dire à quelle date tombera Pessah dans 1000 ans. Donc, ça fait déjà depuis l'époque de la Gemara, c'est comme ça. D'accord? Machiach. D'accord. Non, mais ça veut dire que, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas de problème avec ça. Seulement, la raison qu'explique le Tzemar Tzedek, c'est le petit-fils de l'auteur du Tanya, il dit que pourquoi en diaspora, on fait deux jours de fête? Parce que, en Eretz Israël, en un jour, on arrive à s'imprégner de la Kedusha de la fête. En diaspora, étant donné qu'on est pollué par l'atmosphère de la terre, d'en dehors d'Eretz Israël, c'est pour ça que, pour que la Kedusha d'une fête nous imprègne, il faut plus qu'un jour, il faut deux jours. On n'arrive pas. Un jour ne suffit pas. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim, dans la Gemara, on raconte la Gemara Shabbat, dans plusieurs endroits, les Chachamim ont déclaré que l'air de Chutz La'aretz, l'air d'en dehors d'Eretz Israël, d'accord, la terre des nations a une impureté. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles on doit rester en Eretz Israël, et même si on fait passer quelque chose par l'air en dehors d'Eretz Israël, même s'il n'a pas touché le sol, par exemple. Imaginez par exemple quelqu'un qui décolle d'un avion à Tel Aviv, d'accord, il va passer par Paris et il re-atterrit à Tel Aviv. Il a fait un tour du monde, maintenant il a atterri nulle part. À part qu'Eretz Israël. Et ben, d'après ce que te dit la Gemara te dit le fait même de passer par le avir, c'est l'air, l'atmosphère. Le fait même de passer par l'atmosphère,
l'a pollué.
L'atmosphère de Eretz Ha'amim, de la terre des nations, directement, ça s'appelle, tout de suite, ça s'appelle déjà un endroit qui est pollué.
Pourquoi les fêtes des rabbins, comme pour Mechanikon, ne font pas deux jours?
Parce qu'à la base, ils ont instauré, à la base, la raison de la Takana, c'était par rapport au jour de, on n'a pas le droit de travailler.
Au jour,
on n'a pas le droit, par rapport au Yom Tov.
D'accord.
S'il n'y a pas de Yom Tov.
Transgression.
Pas de transgression, il n'y a rien. Alors, ça veut dire que le fait même de passer par un endroit qui est impur, je véhicule déjà une impureté. Vous savez qu'il y a des gens, aujourd'hui encore, que lorsqu'ils doivent aller pour une raison ou autre, ils doivent quitter Eretz Israël pour leurs affaires, parce qu'on a le droit. On n'a pas le droit de quitter Eretz Israël comme ça. Hein. Quand on habite Eretz Israël, on peut quitter Eretz Israël pour les affaires, pour étudier la Torah ou pour se marier. C'est les trois seules raisons possibles.
Il ne faut pas voyager. Alors.
D'accord. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'autres raisons, on n'a pas le droit d'aller.
Loisir.
D'accord. C'est pas simple du tout. Il faut dire que ça va aider à terre l'étude de la Torah. C'est très compliqué. Il faut trouver une raison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a beaucoup de gens, ça c'est une halakha, je suis un amour, ça. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils doivent partir pour leurs affaires, qu'ils reviennent en Eretz Israël, la première chose qu'ils font avant même de rentrer chez eux, ils vont au Miguel.
Ah bon?
Je suis sérieux? Ils vont au Miguel. Moi, je suis pas israélien. Parce que, c'est, non, parce que la Gemara parle de ça. Vous allez me dire, aujourd'hui, on est tous impurs. Mais il y a cette notion de l'impureté de la terre des nations. Ça veut dire que le fait même de passer par une terre des nations, on véhicule une énergie. C'est pollué. L'air est pollué ici. C'est un air qui a, imaginez que dans la ville dans laquelle on habite ici, c'est une ville qui a vu beaucoup de choses passer, beaucoup d'impuretés, beaucoup de choses. Et c'est dans l'air. C'est dans l'air. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est là.
C'est vraiment, enfin, d'accord, dans la réalité, c'est celui d'Israël qui est plus pollué.
Attendez,
par rapport à
ici. attendez, monsieur Ménita. Ras de Shalom. Non, non.
Si,
excusez-moi. Loin de vous, cette idée se grenier, monsieur.
Quand on a fait l'étude
loin de là. Maintenant, pas du tout. Même les goïms, ils appellent ça la Terre Sainte. La Terre Sainte. Pourquoi ils l'appellent la Terre Sainte?
Non, mais quand on la mesure avec les.
Même s'il n'y a pas le Beth Amikdash.
Oui, bien sûr. Même s'il y a le Beth Amikdash.
Mais il n'y a pas le Beth Amikdash en Afrique.
Donc, j'étais en train de dire que le fait même de passer par la Terre des Nations, ça même, ça rend déjà plus difficile l'accomplissement. Alors après, peu importe, hein. On peut être en France, on peut être en Russie, on peut être en Pologne, on peut être en Allemagne, on peut être n'importe où dans le monde, on peut être au Maroc, en Tunisie, ça change rien. Dès l'instant, d'accord? Dès l'instant où on n'est pas en Israël, hein, pas le Maroc, là. Dès l'instant où on n'est pas en Israël, il y a une Touma. Maintenant, la Torah ne nous interdit pas d'habiter ici. On est en diaspora. Vous savez que le prophète Ézéchiel, lorsqu'il parle de la diaspora, il appelle ça le désert. C'est comme si on était dans un désert. On est dans un désert ici. C'est un désert spirituel. Beaucoup plus qu'en Israël. Et donc, vous comprenez que lorsqu'un juif de la diaspora comme nous fait une mitzvah, il procure une simcha à Kadosh Baruch qui est beaucoup plus grande qu'un juif israélien. Parce que chez nous, l'assimilation est beaucoup plus rapide qu'en Israël. Et donc, quelqu'un qui réussit à ne pas sombrer dans l'assimilation, dans sa propre assimilation, et il réussit à se convaincre de la emouna, de faire les mitzvot, etc., à être dans le coup, à Kadosh Baruch, il est une simcha extraordinaire. Mais on va développer ça encore. Il n'y a pas de plus grande joie devant Dieu qui aura v'simcha comme la lumière et la joie, d'une joie que Dieu a de la lumière qui est issue de l'obscurité. Quand tu es en Israël, c'est déjà lumineux. Alors quand tu as déjà le soleil qui éclaire, tu vas allumer ta bougie. Bon, c'est bien. Tu allumes une bougie, la kavod. Et la lumière est déjà allumée. Mais quand tu es en diaspora qui fait noir partout, c'est un désert, il fait noir, et que quand tu viens, tu allumes ta bougie, cette bougie, elle est très appréciée. Kadosh Baruch Hu dit bravo. Parce que la norme n'était pas la lumière ici. La norme était l'obscurité. Donc, c'est pas pour nous jeter des fleurs. C'est pour nous dire que, Kadosh Baruch Hu est conscient que notre travail en diaspora est plus difficile, et c'est la raison pour laquelle, Kadosh Baruch Hu apprécie énormément les efforts qu'on fait ici. Et c'est la raison pour laquelle, quand on va en Israël, il faut, le rabbi dit que de la même façon que quand on va dans les pays du monde en général, il faut un visa. Il faut un visa. Tu vas aller par exemple, bon, ça dépend quel pays, mais. Il faut faire un visa. Même, tu vas aller par exemple aux États-Unis. Tu fais le. Ils appellent ça le. Comment ils appellent ça? L'ESTA. Il y a un papier à faire. Quand on va en Israël, il n'y a pas de papier. Quand on va en Israël, on t'accueille les bras ouverts. Il y a quand même un visa à faire. C'est quoi le visa qu'il y a à faire? C'est un visa spirituel. Comme ça, il dit le rabbi. Dans une lettre, le rabbi dit ça. Il dit, c'est quoi le visa spirituel? Le visa spirituel, c'est que lorsqu'on va en Israël, peu importe la raison, ça peut être pour les vacances, pour y habiter, il faut rajouter quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Par exemple, celui qui venait à la synagogue lundi, jeudi, il va rajouter un jour. Celui qui venait à la synagogue shacharit, le shabbat, il va rajouter mincha, etc. Chacun, il se connaît. Il faut rajouter quelque chose. Parce que, en Eretz Israël, il y a plus de facilité pour faire la Torah et les mitzvot. Et ça, c'est notre visa d'entrer en Israël. Montrer à Kadosh Baruch Hu que je viens dans un endroit dans lequel c'est plus facile. Donc, je vais rajouter à Kadosh Baruch Hu. Alors, c'est la raison aussi pour laquelle, concrètement, quand on est en exil, la majeure partie du travail des Bnei Israël se trouve en dehors d'Eretz Israël. Et c'est la raison pour laquelle la majeure partie des Juifs habite en dehors d'Eretz Israël. Alors, ce que je vous dis, c'est pas une invention Lubavitch, c'est quelque chose qui est écrit dans Tosfot. D'accord? Hein? C'est toujours vrai.
Quoi?
C'est toujours vrai.
Que la majorité des Juifs?
Bien évidemment.
Non,
évidemment.
Il y a 6 millions de Juifs maintenant.
On est beaucoup plus nombreux en dehors d'Eretz Israël.
Non, on vient de passer.
Non, c'est l'historique. C'est faux, je dis que c'est faux. Non, ma chère serait déjà là sinon. Mais
plus il y en aura en Eretz Israël.
J'ai une échelle où on est plus nombreux aujourd'hui en Israël qu'en Hout Laaretz.
Non, bah, je sais pas, c'est faux. C'est clairement faux. Alors,
bon, la
concrètement, ce qu'on voit, en tout cas,
Il faut falloir
non, c'est peut-être le pays où il y a le plus de...
Arrêtez de contredire Mendes.
Bon, en tout cas, ce qui est clair...
Entre les États-Unis et la France et
Israël.
Et maintenant, c'est...
Et maintenant,
dépasser les États-Unis.
Ça dépend comment ils comptent l'assimilation, etc. C'est qui? D'accord. Pour encourager la LIA.
Ils ont plus de valeur que ceux qui sont...
Alors, en tout cas, ce qui est clair. Bon, oui, laisse tomber le portable, on verra après. Ce qui est clair, d'accord, c'est que l'essentiel du travail des Juifs en exil a été fait en diaspora. Ça veut dire que quand tu prends les 2000 dernières années depuis que le Beit HaMikdash a été détruit, la majeure partie des Juifs ont fait leur travail où? Ils ont fait leur travail en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi? Alors, ça c'est un Tosfot qui dit comme ça. Tosfot, c'est un Tosfot, je vous le citer, dans la Gemara Ketuvot, page 110. Il dit, Vaya Omer Rabbeinu Chaim. Rabbeinu Chaim disait, De Archav Eino Mitzvah Lado Be'Eretz Israël. Qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mitzvah d'habiter en Eretz Israël, tant que ma chère t'es pas là. Pourquoi? Attendez, j'y arrive. Je sais qu'il y a le Rambam, Armanit, j'y arrive. Kiyesh Kama Mitzvah Tatluyot Ba'aretz. Car il y a plusieurs mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël. Des kamaunchim et plusieurs punitions qui sont associées à ces mitzvot liées en Israël. She'en anu yicholim lizer ba'em. Vous savez qu'en Israël, il y a des mitzvot, comme la Shemitah, comme beaucoup de choses que, on n'est pas sûr qu'on va faire attention à 100%. Tu vas au restaurant, tu sais ce qu'on t'a servi. On n'est pas sûr qu'on va faire attention à 100% à ça. Ve'lamod aleihem. Et c'est pour ça, que Rabbeinu Chaim, il dit dans Tosfot, c'est dans le Gemara Ketuvot, il dit qu'après lui, aujourd'hui, il n'y a pas de mitzvah d'habitant en Eretz Israël. Et pas de mitzvah tant que ma chère n'est pas là. Et on a beaucoup de sfarim qui disent ça aussi. Alors, attendez, doucement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qui procure la plus grande simcha à Kadosh Baruch Hu? Je sais que ça va être un sujet, mais laissez-moi terminer ce que je veux dire d'abord. Qu'est-ce qui procure la plus grande simcha à Kadosh Baruch Hu? C'est lorsqu'on allume la lumière dans un endroit qui est obscur. C'est la raison pour laquelle, dans les faits, la majeure partie du travail d'Israël a été fait dans l'endroit où il est, obscur, en diaspora. C'est la réalité, ça. Ça veut dire que tu prends les 2000 dernières années, le Ham Israël a travaillé principalement en exil. Il a allumé la lumière, d'accord? En exil. En Israël aussi, on est en exil. En diaspora. Il a allumé la lumière dans un endroit où il faisait obscur. Ça veut dire quoi? Je vais aller un peu plus loin. On raconte que, il y a un chassid du Tzemar Tzedek, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est le petit-fils de l'auteur de ce livre, qui a voulu faire l'Aliyah. Pourquoi il voulait faire l'Aliyah? Parce qu'il estimait, à juste titre, qu'en Eretz Israël, il allait avoir plus de facilité à servir à Kadosh Baruch Hu, à prier, à faire son travail. Qu'est-ce que lui a répondu le rabbi de Tzemar Tzedek? Il lui a dit, fais ici Eretz Israël. Vous avez entendu? Il lui a dit, fais ici Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avec toutes les grandes qualités qu'a Eretz Israël c'est le palais du roi, et Eretz Israël c'est la terre promise, et Eretz Israël c'est notre terre. C'est pas, la France n'est pas notre terre. Notre terre, c'est Eretz Israël. Et on sait à quel point on parle de l'importance de l'air d'Eretz Israël, comment l'air d'Eretz Israël rend intelligent. Et on sait comment on parle des fruits d'Eretz Israël. Et toute chose qui vient d'Eretz Israël, dans toute l'histoire juive, dès qu'on ramenait quelque chose qui vient d'Eretz Israël, toujours c'était cher. Et même des gens aujourd'hui qui vendent sur eBay, enfin pas plus aujourd'hui, mais ils vendent l'air d'Eretz Israël. Et ils ont vendu, ça se vend bien. On vend tout aujourd'hui. D'accord? Ils ont vendu ça. Ils ont vendu, hein? Alors, non mais je suis sérieux. Ça veut dire que la passion, l'envie, le désir d'aller en Eretz Israël, d'accord, est quelque chose qui a eu lieu de tout temps. Et pourtant, on a vu dans l'histoire juive, et je suis très sérieux de ce que je dis, on a vu dans l'histoire juive que on a eu des dizaines, des centaines, des milliers de grands rabbanim qui habitaient en diaspora, qui habitaient pas si loin d'Eretz Israël, parce que les États-Unis, on les a découverts, ça fait pas longtemps. Avant, on était toujours pas très loin d'Eretz Israël. Des gens qui pouvaient aller en Eretz Israël, qui avaient la possibilité d'aller, d'accord? Et pourtant, la majorité n'y allait pas, même le plus grand rabbinim. Il n'y avait que certaines personnes, Yechidesgoula, des gens de très 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 haut niveau, comme le Arizal, comme le Arizal, comme Rabbi Yosef Karo, comme des grands maîtres, etc. Exactement, qui sont partis en Eretz Israël. Je suis surtout pas en train de décourager l'Aliyah, c'est surtout pas le but de notre propos. Ce que je vais expliquer, c'est que si Dieu a fait que dans la réalité, sur le terrain, la majeure partie du travail d'Israël a été fait en dehors d'Eretz Israël, il y a une raison. C'est pas seulement parce que c'est difficile de faire l'Aliyah, parce qu'il fut un temps où on pouvait faire l'Aliyah. Pourquoi on l'a pas fait? Parce que les Chachamim estimaient qu'il y avait un travail à faire, qu'on n'a pas terminé. Regardez, la majeure partie des maîtres de la Mishnah, la majeure partie des maîtres de la Gemara, prenez juste l'époque du Talmud, les maîtres de Babylone. C'est-à-dire qu'à l'époque du Talmud, on pouvait faire l'aller-retour Israël-Babylone sans aucun problème. D'ailleurs, la Gemara nous raconte souvent des gens qui faisaient l'aller-retour, mais Achal et Atam, d'ici à là-bas. Ici, c'était Babylone, et là-bas, c'était Jérusalem. Pourtant, si on dit que c'est une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, comment on a un Talmud de Babylone? Tous ces centaines de mètres de la Mishnah, de mètres de la Gemara, ils auraient dû tous faire l'Aliyah. Pourquoi ils l'ont pas faite?
J'étais très loin.
Ou très loin? Pas du tout. Mais non, 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 non.
Pendant l'exil.
Attends, excuse-moi. Si tu me dis que c'est des grands rabbins, d'accord, et qui savent, attends, mais si tu me dis que c'est des grands rabbins et qui savent que il faut habiter en Eretz Israël, comment ça se fait qu'ils ont créé des yeshivot, ils ont fondé des yeshivot à Babel, à tel point qu'il y avait même des rabbanim, une grande partie de rabbanim d'Eretz Israël, qui se sentaient obligés de venir en Babylone, d'accord? Pourquoi? Pour étudier. Comment ça se fait? Ça veut dire que, et c'est ça ce que dit Tosfot. Ça veut dire qu'au-delà de l'aspect financier, qui certainement cet aspect existait, il est certain que dans la tête de tous ces rabbanim, à part ça, ils sentaient qu'ils avaient un travail qui n'avait pas terminé. Et tant qu'ils n'avaient pas terminé ce travail.
C'est quoi la différence entre Tosfot et aujourd'hui?
Alors, je vais expliquer. Non, il n'y a pas de différence, c'est la même chose.
Non, non, non. Parce que, à l'époque de Tosfot, il n'y a pas d'État juif. Maintenant, il y a un État juif, quand même, depuis sa
soudaine. Un État juif, tu veux dire un État laïque juif?
Il y a un État juif, en tout cas. Même à l'époque de Talmud de Babylone, il n'y avait pas d'État juif en Israël. Il n'y avait rien, c'était désert. Là, c'est organisé, il y a quelque chose quand même, c'est pas pareil.
C'est pas la même chose, c'est ça la différence?
Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. On s'est organisé entre juifs, on a créé un pouvoir qui ne suit pas forcément ce que la Torah, qui suit pratiquement jamais ce que la Torah veut. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est ok. C'est personne ne remet en question la Terre. Non, il a posé une question par rapport à l'État. Est-ce que le fait qu'il y ait un État juste, ça change quelque chose? Pour moi, ça change strictement rien.
Non, c'est pas juste l'État, c'est la structure. Alors, tu peux aller, tu vas pas dans un désert.
Alors, je veux dire quelque chose. Si une personne, il va dire, je vais faire l'Aliyah parce que j'ai peur en France de l'antisémitisme. Alors, dans ce cas-là, qu'il aille en Australie, qu'il aille aux États-Unis, qu'il laisse tranquille l'État d'Israël.
Non, on parle pas de ça.
Qu'il aille au Maroc même.
Non, au Maroc surtout.
Pourquoi pas?
Qu'il
aille pas dire que la terre d'Eretz Israël c'est un refuge sécuritaire. D'abord parce que c'est faux. D'abord c'est faux. Bon.
Mais c'est pas ça. C'est, en réalité, quand on parle d'avant 49,
48.
Quand on parle d'avant 48, on parle de tout sauf d'une organisation juive. Après la date de l'anniversaire de la création de l'État. C'est
d'accord.
Une organisation juive. Qu'attends, qu'elle soit religieuse ou pas religieuse, exactement. C'est une organisation juive pour...
Très bien. Je te retourne la question. Excuse-moi. Je te retourne la question. Il y avait des gens qui habitaient en Eretz Israël?
Oui.
Très bien.
Très peu.
Il y en a toujours eu.
Il y en a toujours eu. Est-ce qu'il y avait des érudits qui habitaient en Eretz Israël?
Ouais.
Certainement. Est-ce qu'ils vivaient, ces gens-là? Ils mouraient de faim?
Non,
ils travaillaient, etc. Certes, ils étaient souvent sous l'Empire ottoman, etc. Mais ils vivaient. Alors, comment ça se fait qu'il y a des très très grands rabbanim, d'accord, et des très très grands rabbanim, que ils ont pas fait l'Aliyah. Je vais te dire plus que ça. Tu sais que le Baal Shem Tov, non mais c'est pas une question, est-ce qu'on nous accueille ou pas. Si une personne est persuadée qu'il a sa mission là-bas, il y va. On parle de gens ici qui sont prêts à donner leur vie. Je vais rajouter un point.
Ils sont pas sur Israël, sur Jérusalem. Ils ont tous chanté l'amour qu'ils avaient pour Israël.
Ah, mais bien sûr. Mais attention.
Vous ne pouvez pas y aller.
Non.
Ils avaient fait enterrer là-bas.
C'est pas... Ah oui, voilà.
C'était pas 4 heures d'avion quand même.
C'est rien, mais c'est le même. Mais c'est des gens, c'est des rabbanim qui étaient tellement grands, ils avaient des milliers, ou parfois même des dizaines de milliers d'élèves, et il suffisait pour eux de dire, on s'organise, on va y aller, ils pouvaient le faire, c'est sûr qu'ils pouvaient le faire. Il y a, en tout cas, pas tout le monde, mais c'est sûr que beaucoup pouvaient le faire. Deux secondes, j'ai pas fini. Prenez par exemple l'exemple du Baal Shem Tov et l'Admor HaZaken. Vous savez que le Baal Shem Tov et l'Admor HaZaken, les deux ont eu un projet d'Aliyah. Le Baal Shem Tov, non seulement qu'il a eu un projet, il a même commencé sa Aliyah. Il a fait son parcours, il est parti jusqu'à Istanbul, etc. Et Dieu lui a mis des embûches sur toute la route. Des embûches au point qu'il a perdu sa profession, enfin, des tas de choses. Au point qu'à un moment, il a compris, il était avec sa fille, et une partie de ses élèves, au point qu'à un moment, il a compris, il a dit, « Akadosh Baruch Hu me fait comprendre que c'est pas le moment pour moi d'aller en Eretz Israël. » Il est retourné, il est parti à Mejiboj, et c'est là-bas qu'il est enterré. Ça veut dire que, bien sûr que c'est l'aspiration de chaque juif d'aller en Eretz Israël. Et bien sûr que quand on va en Eretz Israël, on doit sentir la Kedusha. La question ne se pose même pas. C'est pas ça la question. La question c'est, aujourd'hui qu'on est en exil, et que ma chère n'est pas encore là, est-ce que je dois dire, j'ai rien à faire ici? La réponse est clairement non, bien sûr j'ai affaire ici. Et on l'a vu clairement, des grands, ici on est en France, on a des grands qui auraient pu partir. D'accord? On n'a pas eu un Tosafis qui a fait l'Aliyah. Comment c'est possible? Pourquoi ils n'ont pas fait l'Aliyah? Ils pouvaient, il y avait des bateaux qui partaient. Parce que ils estimaient qu'ils avaient un travail. Et c'est ça ce que je vais expliquer. C'est que quand on est en France, on n'est pas en France par hasard. C'est pas on dit, bon, ben écoute, on est parti du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Ah bon, ben la France avait voulu nous accueillir, donc on a atterri là par hasard, et on est là, le temps que. Non, c'est pas le temps que. On a un travail ici. On a un travail ici, on a des étincelles divines à récupérer. Alors, c'est pour ça que lorsque les gens posaient la question au rabbi, ils posaient la question au rabbi, est-ce qu'on peut faire la lia? Le rabbi répondait pratiquement jamais à la question. Il répondait pas. C'est-à-dire, des fois, des gens qui se posaient 15 questions au rabbi, le rabbi répond 14 questions, celle-là, il répond pas. Parce que d'après le rabbi, l'aliyah, c'est quelque chose de personnel. Ça concerne personne d'autre. C'est personnel. Ça me concerne à moi. C'est ma neshama qui, à un moment, je sens comme ça, que je me sens plus à l'aise. Pas seulement sécuritairement, c'est rien sécuritairement, ça. Je me sens pas à l'aise. Je sens que ma neshama n'est pas tranquille et je sens que j'ai besoin de m'élever spirituellement. Ça, c'est une aliyah. Ça, c'est bien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et ça, on l'a vu, on a beaucoup de livres, pour répondre à ta question Avraham, on a beaucoup de livres de grands qui décrivent leur alia et ils racontent comment leur alia, c'est une démarche qui a duré des années. Et qu'à la fin, lorsqu'ils ont décidé enfin d'acheter un ticket, d'acheter un billet de bateau pour aller faire l'alia, c'était l'aboutissement, d'accord? C'était l'aboutissement d'une réflexion qui avait mûri, mais déjà depuis plusieurs décennies. Pendant plusieurs années, ils se travaillaient pour enfin comprendre que leur neshama voulait aller en Eretz Israël. C'est pas si on prend un avion, on y va comme ça, on va dire on va habiter là-bas. Ça veut dire que quand on va en Eretz Israël, il faut comprendre que c'est là-bas qu'on va habiter et c'est là-bas qu'on va s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas quelque chose qui est lié à la chassidoute, c'est pas quelque chose qui est lié. On l'a vu chez tous les grands. Chez tous les grands, on a eu très 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 peu de projets de Aliyah. Très très rare. On a connu des gens, comme vous avez dit, des gens qui, en fin de parcours, à la fin de leur vie, ils allaient terminer leur vie en Eretz Israël. Ça, on a pas mal d'histoires comme ça. On a aussi des élèves du Baal Shem Tov comme ça. C'est-à-dire, dès qu'ils sentaient qu'ils étaient au troisième âge, bon, pas troisième âge, c'est pas troisième âge, à l'époque troisième âge, c'était vraiment, ils sentaient qu'ils étaient, voilà, ils allaient partir, alors ils allaient terminer leur jour en Eretz Israël. Pourquoi? Si, ça a un intérêt, parce que, comme ils s'estiment qu'il est plus constructif dans l'endroit dans lequel ils se trouvent, ce qu'ils discutent, d'accord? Donc, il se dit, je vais aller en Eretz Israël, c'est une sorte de retraite. C'est une sorte de retraite. Non, mais il y a eu beaucoup de grands qui ont fait ça. Il y a beaucoup de grands qui ont fait ça. Ça veut dire qu'ils ont construit leur vie en diaspora, ils ont construit des bêtes à midrash, des maisons d'études, etc. Après, ils ont assuré la relève par leurs enfants, par leurs élèves, etc. Après, ils sont partis. Ils sont partis parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait plus de travail à faire. Mais ce qui est clair, c'est que tant qu'on a un travail à faire, on ne peut pas quitter ce travail.
C'est marrant parce qu'en fait, il manque quand même un élément très important. C'est marqué que Israël, Kutcha Beyoukou, Eretz Israël, ça fait un.
Non. Si. Israël, Oraita, Kutcha Beyoukou. Israël, la Torah et Dieu.
C'est quoi Israël?
Oui. Hein?
C'est pas Eretz Israël?
Pas du tout. Israël, c'est le peuple juif.
Bien sûr. Mais attendez. Il y a une relation avec l'État d'Israël qui est quand même.
Bien sûr qu'il y a une relation avec. Attendez. Évidemment,
les mitzvot ne sont faites que pour la terre d'Israël.
Quoi?
Les mitzvot ne sont faites que pour la terre d'Israël.
Qui a dit ça?
Ne concerne que la terre d'Israël. Planter, tout concerne que la terre d'Israël.
Non, et des mitzvot qui ne sont applicables qu'en Eretz Israël.
Les mitzvot qu'on fait en Chutz La'aretz, c'est pour s'habituer à l'État.
Alors vous allez me dire.
C'est un discours
très sioniste, ça. Ça veut dire que vous allez me dire, excusez-moi de vous reprendre, vous allez me dire que sur les 2000 ans d'histoire qu'on a fait en exil, si on va dire qu'il y a 80% des juifs, je vais arrondir à 80% des juifs, qui ont passé leur vie en diaspora, d'après vous, ils étaient à côté de la plaque?
Non, ils ont simplement fait
les mitzvot. Ils
n'ont pas fait les mitzvot, c'est à côté de la plaque.
Ils pouvaient pas faire autrement.
Si, on pouvait faire autrement. Bien sûr qu'on peut faire autrement. Bien sûr, on parle de géants ici, mais bien sûr que vous avez des moyens.
J'ai entendu ce discours qui dit
que quoi?
Bien sûr, c'est un discours. Oui. C'est une mitzvah qu'on fait en France, la reste n'a pas de valeur.
C'est le Ramban qui dit ça. C'est le Ramban qui dit ça. Tu vois bien, c'est le Ramban qui dit ça. Lui-même, où il a vécu?
En Espagne,
c'est, voilà. Ça veut dire que tout en parlant et tout en chantant la louange d'Eretz Israël, on est conscient que n'oubliez pas que nous sommes toujours en exil et que n'écoutez pas les faux prophètes qui vous annoncent, qui vous disent ça y est, Mashiach est déjà là. Mashiach n'est pas là. Mashiach n'est pas là. On l'a peut-être même repoussé.
Mais il est pas là, mais il est...
D'accord? Non, mais je suis sérieux. On l'a peut-être même repoussé. Voilà, parce que Mashiach n'est pas là. Ce que nos parents ont entendu pendant 2000 ans, c'est pas pour avoir un état laïque. C'est pas ça ce qu'on attend. Nous, ce qu'on attend, c'est avoir un endroit dans lequel on peut se comporter comme un Kadosh Baruch Hu il veut, sans avoir toujours à se défendre, sans toujours avoir à rendre des comptes. Regardez ce qui se passe, juste deux secondes. Regardez par exemple ce qui se passe en Israël, la polémique qu'il y a depuis la semaine dernière. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. La polémique qu'il y a sur un soldat qui a tiré. Vous avez suivi cette polémique ? Bon. Alors, qu'est-ce que dit la Torah sur ça ? La Torah, elle te dit, celui qui vient pour te tuer, tue-le en premier. C'est clair. Il n'y a pas, sans équivoque. Et même un rabbin qui est passé à la radio, ils lui ont posé la question, qu'est-ce que vous en pensez ? Il a dit, si c'était moi, j'aurais vidé mon chargeur. D'accord ? C'est ce qu'il dit. Maintenant, dans les faits, qu'est-ce qu'en pense Netanyahou ? Qu'est-ce qu'en pense ? À mon avis, Netanyahou, il pense la même chose. Seulement, il y a le politiquement correct. Voilà. Et il y a l'engagement de Genève, d'accord ? Etc. 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 Donc, bien sûr. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est big time en galoute. Bien sûr qu'on est en galoute. On est en très grande galoute.
Non, mais là, l'exemple, il est mal donné.
Et les gens, ils pensent que, excusez-moi de vous reprendre, mais les gens, ils pensent, ils disent, oui, maintenant qu'on a, je suis désolé, je ne veux pas être anti-sioniste, hein, parce que je suis très sioniste. Les gens, ils vont dire, oui, tu sais, maintenant qu'on a la terre d'Israël, maintenant qu'on a un État, maintenant qu'on a une armée, plus jamais on pourra nous tuer comme à Auschwitz. Vous y croyez vraiment ça ?
Non.
Mais c'est pas du tout. Bien sûr que non. Tu entends, Michael ? D'accord ? Attends, tu as entendu ce que je viens de dire ? T'as pas entendu ce que je dis ? Il y a des gens qui disent, aujourd'hui j'entends, je me rappelle quand j'étais jeune homme, quand j'avais passé le BAFA, c'est le diplôme pour être animateur. Alors, on avait eu un débat. Il y avait des gens qui étaient religieux, des gens qui n'étaient pas religieux. Et un des débats qui était lancé, c'est est-ce que d'après vous, aujourd'hui, la Shoah est encore possible ? D'accord ?
Ouais.
Bien sûr que oui. Mais c'est sûr que oui. Mais évidemment, ça veut dire que si les goyim se luttent contre nous, etc., ils peuvent tout faire, c'est rien du tout. C'est rien pour faire une Shoah. Chas v'shalom, ils peuvent réussir. Bien sûr qu'on est... Chas v'shalom, de parler comme ça, ça n'arrivera jamais. Ça veut dire que bien sûr qu'on est en galoute encore. Ma chère n'est pas là. C'est pas ça ce qu'on attend. Alors, est-ce que ça veut dire... Attendez, maintenant, est-ce que ça veut dire que c'était une erreur de créer l'État d'Israël ? Pas du tout. Dans la réalité dans laquelle on se trouvait, après la guerre, d'accord, après la Shoah, il est évident qu'on devait créer une structure dans laquelle on va pouvoir se développer, etc. Et c'était la bonne chose à faire. Il n'y a pas de question dessus. Mais dire que ça c'est Mashiach, appeler ça un début de Géoula, ça c'est une erreur. Et donc, c'est pour ça que je précise maintenant.
On ne dit pas ça. Il y a quand même des simanim.
Moi, je te dis le contraire.
Il y a quand même des simanim.
On ne veut pas le voir.
Quoi ?
Moi, je dis Mashiach est là et on ne veut pas le voir.
Mashiach, il arrive.
Non, moi, j'y vais là.
Il est où ?
Là, on ne veut pas le voir. Il est là.
Il est où là ?
48,
il a construit le Betamigdash ?
Non,
ben non.
Va monter la première
ferme. Non, le Seder, il y a un Seder dans le Rambam. Il y a un Seder dans le Rambam. Rambam, évidemment, Mashiach, il vient. Après, on le reconnaît. D'accord ? Après, on l'admet que c'est le Mashiach. Après, Eliyahu HaNavi le valide. Eliyahu HaNavi vient avant et il le valide. Après, il construit le Betamigdash. Après, il rassemble les exilés. Et après, toutes les nations qui nous ont embêtés, on les éradique. Il y a un CDR, il y a un ordre.
Il y a quand même un ordre.
Vous avez un Betamigdash aujourd'hui ?
Il y a un ordre qui dit que les signes de la venue de Mashiach, c'est quand les monts judéens vont commencer
à... Mais bien sûr qu'il y a des signes de Mashiach. Mais moi, ma question, c'est ma question de Aliyah. Ça veut dire, j'ai rien à faire en France, je perds mon temps ici, il n'y a pas d'avenir pour les juifs en France, hein, une phrase qu'on entend souvent, c'est une phrase qui est fausse. Parce que l'avenir, c'est pas moi qui le décide. Moi, tant que je suis ici, j'ai une mission, j'ai un travail à faire. Maintenant, mon travail, c'est quoi ? C'est d'être juif, de faire ma Torah et mes mitzvot, et avec ça, je récupère des teintes de Gdusha. Et vous inquiétez pas, que le jour où Akadosh Baruch Hu aura estimé que notre mission est terminée, il s'arrangera pour qu'il y ait un Haman qui vienne ici et qui nous foute dehors. C'est pas le cas encore. D'accord ? Maintenant, si une personne, il sent que sa Neshama est attirée vers la terre d'Israël, pas l'État d'Israël, si une personne sent que sa Neshama est attirée vers la terre d'Israël et qui veut augmenter en Torah et qui sent qu'en France il est bridé parce qu'il peut pas sortir avec sa kippa comme il faut, il peut pas faire ses fêtes comme il faut, il peut pas s'exprimer son judaïsme comme il faut et qui pense qu'en Israël il arrivera mieux à le faire, ça c'est une autre question. Je connais des gens comme ça. J'ai quelqu'un dans ma famille comme ça, la famille de ma femme, des gens qui habitaient à Marseille, d'accord, que quand ils étaient là-bas, ils étaient traditionnalistes, on va appeler ça comme ça, et que la raison pour laquelle ils ont fait l'aliyah, c'est pour mieux vivre leur judaïsme. Et Baruch Hashem, leur judaïsme a fait un bond extraordinaire. Ça, c'est une aliyah. Là, on parle de aliyah. Ça veut dire que c'est d'abord et avant tout l'aliyah personnelle. L'aliyah, je la fais d'abord en moi, et l'aboutissement de cette aliyah est par l'aliyah matérielle et physique. Mais si on croit que l'aliyah, c'est juste, je vais déménager, je vais acheter un billet, je vais acheter un loft à Tel Aviv, et ça s'appelle j'ai fait l'aliyah, c'est pas ça l'aliyah.
Ah non, pas sûr que non.
Tu sais combien ça coûte un loft à Tel Aviv ?
Ouais, mais c'est pas ça l'aliyah.
D'accord.
Pas de problème.
Ça peut être Herzliya, ça peut être Netanya, ça change rien. Ça change rien.
C'est pas ça.
Donc,
si je peux faire un leurre tête à la vie, c'est que je peux faire l'alia.
Moi, je vais vous dire quelque chose. L'alia d'aujourd'hui, très souvent, c'est une alia qui est sécuritaire. Donc, c'est une délocalisation, exactement. Il faut dire les choses aussi honnêtement, c'est très souvent une alia fiscale.
Mais nous, on a eu
d'accord. C'est une alia fiscale. Et aussi, attendez, et aussi, c'est une alia identitaire. D'accord? Identitaire. C'est même pas pour s'élever. Parce que quand tu parles à des gens, tu leur dis pourquoi tu veux faire l'alia? Il dit parce que là-bas, ici, je me sens pas en sécurité. Tu dis, mais tu sais que c'est ici, moi, t'as plus de chances de mourir là-bas qu'ici. Et tu dis, oui, mais je préfère mourir entre juifs. Excusez-moi, ça s'appelle un repli identitaire.
On a tous 100% de chance.
Ça, c'est un repli identitaire, ça.
C'est même du communautaire.
Ah oui. Mais c'est un bon repli identitaire, pas de problème. Mais c'est un repli identitaire.
Mais maintenant, on a eu des exemples ici de gens qui sont partis pour la vraie alia. Il y a Dan, il y a.
Oui.
Ma marque, les enfants, ils sont partis vraiment.
Exactement. Ça, c'est une bonne chose. Quand t'as une personne, t'as pas besoin de donner des noms. D'accord? Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises, c'est partout. Quand t'as une personne qui, et il y a des enfants qui le feraient mieux, des enfants qui le feraient moins bien, c'est normal. Ça dépend, c'est des questions à peser, c'est pas des questions simples. Mais quand on le voit sous cet angle-là, là, c'est une chose. C'est ça ce que dit l'Edmor Hazaken. Que si Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que la majeure partie d'Eret Israël a travaillé en exil en dehors d'Eret Israël, c'est que Akadosh Baruch Hu est avide de ce plaisir, le plaisir de voir comment on allume la lumière dans un endroit où il fait obscur. Et c'est ce qu'on fait ici en France.
Donc on est des expats, quoi.
Non, en Israël, c'est pas très obscur.
En exil.
En Israël, on peut avoir des gens qui sont obscurs, mais le lieu n'est pas obscur. La terre n'est pas obscure. Ça veut dire, la terre d'Israël, c'est une terre dans laquelle il y a peut-être aussi beaucoup de Touma. Mais c'est une terre dans laquelle, quand on fait une mitzvah, d'ailleurs, c'est ça ce que veut dire le Ramban, Narpanit, lorsqu'il dit ce que vous avez cité, que les mitzvahs d'Eret Israël sont différentes. C'est qu'une mitzvah qu'on fait en Eret Israël, et pour avoir habité en Eret Israël pendant 2 ans, je peux vous confirmer, une mitzvah qu'on fait en Eret Israël, c'est une autre dimension. Elle nous fait plus décoller. C'est autre chose.
Une avéra aussi.
D'accord, une avéra aussi. Malheureusement, une avéra aussi. On est dans le palais du roi. On est dans le palais du roi. Alors. Et donc ça c'est la réponse.
Ce décollage là, comment vous le voyez? Comment c'est subjectif. Hein,
Monsieur Benita, si on va en Israël, pour admirer les belles plages d'Eret Israël, il est évident qu'on verra rien en Eret Israël.
Non, mais
si on va en Eret Israël pour aller voir les tombes de Tzadikim, pour aller respirer l'air de Jérusalem, pour aller au Kotel, bien sûr qu'on sent des choses différemment. C'est un lieu, chaque centimètre carré il respire la Kedusha. Il y a une histoire qui s'est passée. Chaque lieu a son histoire. C'est notre pays. C'est pas ici notre pays.
C'est très peu de géographie et beaucoup d'histoire.
Ah, mais c'est énormément d'histoire.
François Mitterrand.
D'accord. Ah bon? Azak.
Il est bon, peu. Et encore, il est.
Servez-le, alors.
Et encore, il a pas du Verheim.
Hein? Alors. Donc, ça, c'est la réponse du rabbi de Tzemarcedek. La réponse du rabbi de Tzemarcedek, lorsqu'on lui a demandé, on lui a dit qu'on voulait faire l'Aliya, il a dit, fais ici, Eret Israël. Ça veut dire que d'abord et avant tout, lorsque j'arrive, chaque fois qu'on va réussir à construire une synagogue, à faire une maison juive, ma maison est comme un petit Eret Israël. Ma maison est comme un petit Eret Israël. Et donc, il est évident qu'un juif ne doit pas abandonner le terrain. Si Dieu m'a mis dans un terrain de combat, je suis un soldat ici maintenant. Kadosh Baruch Hu m'a dit, tu dois faire un travail ici. Je ne dois pas abandonner mon terrain. C'est pas...
Se replier des fois.
Hein?
C'est
quoi?
Se replier.
D'accord.
C'est très important.
Mais ça veut dire comme ça.
Battre en retraite.
Ça, c'est un mot. Se battre en retraite.
Il
faut se battre en retraite. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il avait dit la phrase suivante, une phrase très célèbre qui a été reprise par plusieurs. Il a dit, c'est pas de notre volonté qu'on est parti en exil, et c'est pas par notre volonté qu'on sortira de l'exil. En d'autres termes, ça veut dire que nous, bien sûr, on fait un effort, on peut faire des chouvets, etc. Mais on peut pas dire, bon, bah ça y est, Mashiach est là. On peut crier 15 fois Mashiach est là. D'accord? Ça marche pas. Tu peux crier 15 fois sur du cochon que c'est un morceau de veau, ça passera pas un morceau de veau. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Ça veut dire que. Vous connaissez pas la.
Ça dépend de combien tu mets sur la table.
Une fois, il y a un juif qui a. Une fois, c'est une blague. Une fois, il y a un juif qui a voulu se convertir. Bon, c'est presque impossible normalement. Alors, bon, il a voulu se convertir. Alors, il est parti chez le curé, etc. Et le curé lui dit, ah, vous savez, monsieur, vous êtes conscient de ce que vous faites? Il dit, oui, oui, je suis conscient, mais bon, je dois accéder à un poste très important, il faut que je me convertisse, etc. Il dit, mais vous êtes conscient que la Dafina, Shabbat, c'est terminé. Ah oui, vous êtes plus juif, quoi, c'est fini, il faut arrêter. Oui, oui, pas de problème, oui, pas de problème, j'arrête. D'accord, hein, hein. Vous êtes conscient que, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a le vendredi soir chez les... Le couscous, c'est terminé. Oui, oui, c'est bon, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Alors, il dit, bon, pas de problème. Alors, il y fait le baptise, etc., bon, à total. Et le curé, il est curieux de savoir ce qui va passer le Shabbat suivant. Alors, le Shabbat suivant, il envoie des espions pour aller à côté de la maison de ce juif. Et il sent des bonnes odeurs, il sent les odeurs. Alors, il le convoque, plein milieu, il l'attrape en flag, en train de manger. Il dit alors, je vous ai dit de ne pas manger. J'ai dit pas de dafina, pas de couscous, c'est quoi cette histoire? Il a dit, je vais vous expliquer, c'est très simple. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pris le couscous, j'ai pris la dafina devant moi, et j'ai dit, c'est du pain, c'est du pain, c'est du pain, et j'ai mangé. Vous avez fait la même chose. Vous avez versé de l'eau, vous avez dit, c'est de l'eau sainte, c'est de l'eau sainte, c'est de l'eau sainte. Bon, pour reprendre. C'est pas parce qu'on va dire que Mashiach est là, Mashiach est là, Mashiach est là, que ça veut dire qu'il est là. D'accord, il est en train de venir, il y a des signes, annonciateurs, etc. Mais on a un travail à faire. Et beaucoup de personnes posaient la question au rabbi, pourquoi vous ne faites pas l'aliyah? Pourquoi vous ne faites pas l'aliyah? Le rabbi répondait ça. Le rabbi répondait, il dit qu'un juif, il ne va pas dans l'endroit où il a envie d'aller. Il va dans l'endroit où on a besoin de lui. Et il dit, moi, pour moi, je pense que mon travail est ici, en diaspora. En diaspora, surtout aux États-Unis, qu'il y a une grande concentration de juifs qui ont besoin de son aide, puisque vous savez que l'assimilation aux États-Unis, on est pas au Hachem, on est très très loin de ça. Ah ben, l'assimilation est très 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 profonde. On lui dit, je sens que mon travail est ici. C'est comme par exemple un docteur. Le docteur, il doit pas aller dans l'endroit dans lequel il fera une meilleure carrière. Il doit aller dans l'endroit dans lequel il sent qu'on a le plus besoin de lui. C'est comme ça que ça devrait être normalement.
Ça devrait être.
Oui. Pas dans l'endroit dans lequel il fera. Parce que sinon, on est des carriéristes. Et ça, c'est pas notre but. Nous ne sommes pas des carriéristes. Nous sommes des soldats. Et un soldat, il fait son travail. Et tant qu'il n'a pas terminé son travail, il part pas. Et même s'il restera soldat jusqu'à la fin de sa vie, eh ben, il partira pas. Et même si c'est son fils qui devra continuer le travail qu'il a commencé, eh ben, il partira pas. Ça, c'est un soldat. Pas, il dit, ah, la carrière n'avance pas. Bon, Dieu, il sait où il t'a mis. Dieu, il sait que t'as mis dans un travail qui est compliqué. Et donc, il est évident que quand on lit ça, alors on fait attention encore plus lorsqu'on va en Eretz Israël. Et ça, c'est écrit dans Tashbet, d'accord, c'est un grand décisionnaire, ce que j'ai dit tout à l'heure, que lorsqu'un juif va en Eretz Israël, puisque Eretz Israël, c'est le palais du roi, alors, il doit rajouter dans les mitzvot. Sinon, il est mieux de ne pas aller en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que, je vous expliquer, je vais donner un exemple très simple. Imaginez un sujet du roi qui se trouve pas dans le palais du roi. Il est dans le royaume, il est quelque part dans la ville, dans la ville du roi. Bon, il est chez lui à la maison, il fait un peu ce qu'il veut, il raconte un peu ce qu'il veut, il respecte pas trop le roi. Bon, c'est pas bien, mais c'est pas la fin du monde, parce qu'il est pas devant le roi. Mais quand tu rentres dans le palais du roi, et que tu continues à avoir le même comportement que t'avais chez toi à la maison, c'est-à-dire que tu oublies que t'as un roi devant toi, le roi dit, mais attends, ce que tu fais chez toi, mais t'es devant moi, là. Tu montres même pas que tu réalises que t'es dans un endroit dans lequel t'as un roi devant toi. C'est la même chose. Quand t'as une personne qui était en France, et qui avait un mode de vie, il avait un rythme, d'accord, un certain rythme, traditionnaliste, etc., et qui va en Eretz Israël, et qui va avoir le même rythme. On te dit, mais attends, en Eretz Israël, t'es dans le palais du roi. Dans le palais du roi, tu crois que tu es là à faire ton petit programme à la française? Mais c'est terminé, ça. En Eretz Israël, il faut comprendre que tu es dans le palais du roi. Et dans le palais du roi, le roi voit tout ce que tu fais plus que d'habitude. Aîné Hachem, il a les yeux, il te regarde. Donc tu dois rajouter quelque chose. Tu dois aller plus souvent à l'office, tu dois faire plus attention à la cacheroute, tu dois faire attention à ça. Sinon, il est mieux que tu n'ailles pas. Si c'est pour aller, pour juste faire du tourisme, n'y va pas. Fais, vas-y faire du tourisme en Espagne, c'est mieux. À l'Espagne, là-bas, va faire du tourisme ailleurs. Ah, bien sûr que les gens vont dire, faut donner l'argent en Israël, et c'est important de donner l'argent en Israël, attention. Et si vous voulez voyager avec Elal, même si les billets coûtent le double, il faut donner l'argent aux Israéliens. C'est très bien. Une grande mitzvah. C'est très bien. Mais, il faut se rappeler pourquoi on va en Israël. D'accord, hein? Non, mais voilà. Même si vous allez en Eretz Israël, si vous voulez aller en vacances, si vous voulez aller en Eretz Israël, parce que, au Hachem, vous avez le budget pour, il faut aller en Eretz Israël, c'est une très bonne chose d'aller en Eretz Israël. Sauf que, il faut décider de rajouter quelque chose. Voilà, c'est pas compliqué. Ça veut dire, imagine-toi comment je vis à la française, puis quand je vais en Israël, je rajoute quelque chose. Ça, c'est mon visa d'entrée. Pour montrer à Kadosh Baruch, pour montrer au roi, je dis voilà, chez moi à la maison, je faisais ça, ici, j'ai rajouté ça. Je viens à la synagogue un peu plus souvent, je fais un peu plus de mitzvot, je mets les tefillah, je passe un peu plus de temps à faire ma tefillah, je montre à Kadosh Baruch que j'ai pris mon visa pour entrer en Eretz Israël. Alors, en fait, ce qui est écrit en Chassidout, on va encore beaucoup plus loin que ça. On dit que lorsqu'un juif va en Eretz Israël, il emporte avec lui l'atmosphère qui est autour de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque juif, chacun de nous, autour de nous, on propage une atmosphère de Gan Eden et une atmosphère de Guéhinnom. Chacun de nous, à chaque instant. Vous comprenez que lorsqu'on vit en diaspora, on a avec le temps, on a intégré une atmosphère de Guéhinnom. Et donc lorsqu'on va en Eretz Israël, nous autres juifs de diaspora, on sent mauvais. Alors, quand t'as une personne qui sent mauvais qui rentre dans le palais du roi, si au moins il vient pour respecter le roi, alors il dit bon, il sent mauvais, laissez-le le temps un peu, qu'il se parfume un peu, bon, on va le laisser tranquille. Mais s'il est là, il sent mauvais, et il continue à faire le clochard comme dehors, le roi il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il croit, il fait le malin, il dit, va dehors, toi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est-à-dire qu'il faut réaliser que quand on va en Eretz Israël, on sent mauvais. Plus que les Israéliens. Parce que nous, on a véhiculé toutes les façons de vivre à la française. Il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. Mais ouais. On a véhiculé beaucoup, beaucoup d'atmosphère qui est négative.
Mais alors, tout le travail qu'on a fait ici, il est mauvais?
Non, j'ai pas dit ça.
J'ai dit que
non, non, non. J'ai dit que
ici. Ça veut dire le résultat d'ici, il est mauvais là-bas.
Monsieur Benita, ici, on travaille dans les poubelles. Donc, automatiquement, on sent mauvais. Maintenant, c'est très appréciable pour Akadosh Baruch Hu. Parce que travailler dans les poubelles, c'est dur. Donc, Dieu, il kiffe quand il nous voit. Il dit, regarde celui-là, franchement, il aurait pu se laisser aller, et quand même, il est là, il essaie d'allumer la lumière. Colle à Kavod.
Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que justement, celui-là.
Mais quand tu vas en Eretz Israël, quand tu vas en Eretz Israël et que tu te relâches, le problème, c'est qu'en venant en Eretz Israël, tu as pris avec toi l'atmosphère.
On est des gitans.
D'accord? On a un peuple errant. Non, mais c'est sérieux. On a un peuple errant, on a un peuple qui n'a pas de terre. Notre terre, c'est nous-mêmes.
C'est notre monde.
Notre terre, c'est nous-mêmes.
On erre dans notre monde.
C'est sûr qu'on a une terre, mais ça veut dire qu'on est tout le temps en train d'errer. Ouais, c'est alors.
Les Juifs sont partout.
Maintenant, c'est vrai que la Gemara a dit comme ça. La Gemara a dit dans le traité Ketuvot, là-bas, dans la Gemara que je vous ai cité, page 110. La Gemara a dit que celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, c'est comme si qu'il n'a pas de Dieu. Alors, comment comprend cette Gemara? Gemara dit comme ça. Vous voulez la référence? Gemara Ketuvot, page 110. Gemara dit que celui qui habite en diaspora, c'est comme si qu'il n'a pas Dieu. Alors, ça, c'est
comment
en fait.
Comment il peut dire alors, ça alors qu'il y a les étincelles alors, en nous?
Voilà. Alors, tout soit, ça, sur la base de tout ce qu'on expliquait tout à l'heure, on explique comme ça. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara, elle dit, Adar Bechutz Laaretz. Vous savez qu'en hébreu, pour dire habiter, on peut dire la gour ou on peut dire la dour. Ça peut être soit avec un guimel, soit avec un dalet. Et ça change tout. Lorsqu'on dit la gour, d'accord, avec un guillemet,
la gour charme,
ça veut dire habiter, mais de façon que mon corps se trouve là, mais ma tête n'est pas forcément ici. Lorsqu'on dit la dour avec un dalet, dira, là, ça veut dire qu'on s'installe, on réside dans l'endroit. Dira, c'est une résidence. Qu'est-ce que dit la Gemara? D'ailleurs, c'est pour ça que, avant de dire ce que dit la Gemara, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a rencontré Esav, enfin lorsqu'il a envoyé les émissaires à Esav, il a dit « Im Lavan garti ». J'ai habité avec Lavan. Il a employé le terme « gar ». Gar qui veut dire « guimel ». Ça veut dire « guimel resh », ça veut dire « il a habité, mais son corps y était, mais sa tête était en Israël ».
Guerre.
Il était guerre, il était étranger. Alors que « darti », darti, d'accord,
ouais. Réal, oui.
D'accord, le contrat de confiance, darti.
Il y a eu ce sponsor.
Donnez-lui un petit peu à boire.
Alors, JB, alors, buvez JB.
Ça j'y vais avec JB.
Alors, donc, j'étais en train de dire, qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara, dans le traité Ketuvot, elle dit Adar Bechutz Laaretz. Celui qui réside en diaspora. Pas celui qui habite. Habiter, on habite en diaspora. Mais il est évident, comme plusieurs ont dit tout à l'heure, que notre tête se trouve où? Notre tête se trouve en Israël. La preuve, c'est que quand tu suis l'actualité, tu entends qu'en Israël, il y a des gens, que Dieu préserve, qui sont poignardés tous les jours, et que tu entends qu'il y a des guerres, etc., tu sens que ça te parle, c'est ta terre. Plus que ce qui se passe en France. Parce que, on sent que ici, c'est passager. Combien de temps on tient les Juifs dans un endroit? Statistiquement. Combien de temps on tient dans un pays? 2 générations, 3 générations, combien de temps tient? Chaque kilomètre d'heure, mais statistiquement, combien de temps tient dans un pays?
De moins en moins longtemps.
Hein? Reprenez par exemple, prenez l'exemple.
Prenez moins longtemps. Non, mais, attendez. Au Maroc pendant des années.
Voilà, prenez l'exemple, Maroc, Tunisie, Espagne, etc. Combien de temps tient?
2-3 générations,
d'accord? Voilà, on nous a renvoyé. Ça veut dire qu'en vérité, un juif.
Ils vous ont juste montré la sortie.
Non, jamais d'avis. La Tunisie.
L'Algérie, oui. Le Maroc, non.
L'Algérie, c'est quoi?
Ça va, on a compris.
Alors,
les pogroms, il y en a eu partout, même en France et en Allemagne.
Maintenant, donc je voulais continuer encore sur ça. Dans quel cas, la Guémara dit, dans quel cas, aujourd'hui on a fait surtout à l'oral, parce que je pense à un thème important. Dans quel cas, Rabotai, la Guémara dit que celui qui est en dehors d'Eretz Israël, c'est comme si il n'a pas Dieu. On parle de celui qui réside en dehors d'Eretz Israël. Celui qui dit que ma place est ici. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de ma chiar, moi. Moi, je suis bien en France, je suis français juif. Je suis d'abord français, je suis bien ici, c'est ma terre, c'est ma patrie, c'est mon pays. Chère France, d'accord? Là, on te dit non? On te dit 12 France, d'accord? Alors. Hey, je les ai branchés. Alors, c'est-à-dire celui qui pense que ma vraie place est ici et qui ne pense pas du tout sur la Géoula, d'accord? Là, c'est pas bon. Par contre, celui qui est ici en France et qui va vivre à la française, mais qui va aspirer, qui va espérer à avoir Bezrat Hashem très rapidement à la Géoula, et qui pense en Eretz Israël, il se trouve en France, mais il pense à Eretz Israël, et bien celui-là, en vérité, c'est comme si qu'il habitait en Eretz Israël. Sur ça, hein, vous savez, il y a un mot du Rabbi, il a dit comme ça. Une fois, le Rabbi parlait comment il y avait un de ses chassidim qui l'a envoyé en shlichut, en mission, dans un, je crois que c'était au Brésil. Et bon, comme il était pas bloqué, il était là-bas pour la mission, et du coup, il a envoyé une fois du renfort, un élève de la yeshiva qui est parti l'aider, et l'élève de la yeshiva est revenu après, et il a dit au Rabbi, il a dit, vous savez, il est au Brésil, mais il n'arrête pas de penser à vous, il s'imagine comme si qu'il était encore ici. D'accord? Et le Rabbi au Fabregat, quand il a entendu ça, il a réagi comme ça. Il a dit, il y a des gens qui sont présents ici, c'est-à-dire qui sont au 770 avec nous, mais qui en vérité, ils sont ailleurs. Il y a des gens qui sont ailleurs et qui sont en vérité ici. Ça veut dire que c'est la même façon quand on parle d'Eretz Israël. Il y a des gens qui sont en Eretz Israël, mais qui ont la tête en dehors d'Eretz Israël, c'est-à-dire qu'ils vont vivre en Eretz Israël avec le petit chien, etc., comme si on était à Paris. C'est-à-dire que ça, c'est des gens qui sont en Eretz Israël, mais qui vivent en dehors d'Eretz Israël. D'accord? Et qui vont avoir la boucherie française à Natania, et les baguettes françaises, et le truc français, tout français, parce qu'on l'a en France. C'est devenu une dépendance de la France.
Le petit Beaujolais.
Bon, j'ai rien contre Natania. Alors, donc. Non, c'est pas ça. C'est que quand tu vas en Israël, il faut savoir pourquoi tu vas en Israël. Tu vas pas pour faire du forex, tu vas pas pour arnaquer les gens, tu vas pas pour faire des belles vacances, tu vas pas pour faire le beau, tu vas parce que tu veux t'élever spirituellement. Là, c'est bien. Sinon, oubliez, enlevez ça de votre tête. Et donc, c'est ce qu'il dit ici. Celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, mais qui aspire à être en Eretz Israël, celui-là, c'est comme si qu'il habitait en Eretz Israël. C'est ça ce que ça veut dire quand on est fait ici Eretz Israël. D'un autre côté, celui qui séjourne en Israël, mais qui réside en dehors d'Eretz Israël, celui-là, c'est comme si qu'il n'avait pas de Dieu. La question n'est pas où j'habite, la question est où je réside. Où il se trouve toute ma tête. Cependant, avec tout ça, le Rabbi explique que les dernières années, on voit concrètement que de plus en plus de Juifs se rassemblent en Eretz Israël. Et en particulier, des Juifs qui viennent partout dans le monde, et on a eu une grande alliée qui est venue de Russie. Et ça veut dire que c'est un signe de Mashiach. Pourquoi? Parce qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, avant la venue de Mashiach, il nous donne un avant-goût de ce qui va se passer lorsque Mashiach viendra. Et donc cet avant-goût a déjà commencé. Ça veut dire que quand on veut s'imaginer de quoi ça aura l'air la terre d'Israël, lorsqu'il y aura beaucoup de monde, lorsque ce sera une vie juive, alors pour nous préparer à ça, à Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de juifs qui habitent en Israël, et qu'il y ait de plus en plus de yeshivot, qu'il y ait de plus en plus de Torah, parce que à Kadosh Baruch Hu veut nous préparer, parce qu'il est écrit que, avant d'arriver à Mashiach, à Kadosh Baruch Hu nous donne des signes qui nous préparent. Ça veut dire comme une personne, tu veux lui allumer la lumière, avant de lui allumer la lumière, tu le prépares à la lumière. Mais de dire que Mashiach est déjà là, ça c'est une erreur. Ça veut dire que le travail est terminé et qu'on n'a plus rien à faire en France, ça c'est une erreur. Dire que moi je pense que j'ai plus rien à faire ici, par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants, on arrive à la conclusion que on n'arrive pas ici à exprimer notre judaïsme comme il faut et qu'on arrivera mieux à exprimer notre judaïsme quand on est en Eretz Israël. Ok, ça se discute. Et la vérité, ça c'est une décision, il faut même pas en parler au rabbin. Je vois des gens qui demandent à des rabbins. C'est pas une question pour un rabbin, ça. On peut poser un dilemme à un rabbin. Je dirais, écoutez, je sais que il faut aller si je sens que ça et ça, mais voilà, j'ai la parnassa qui est comme ci, est-ce que c'est suffisant? On peut poser peut-être un dilemme. Mais la question, est-ce que je dois faire l'aliyah ou pas, c'est pas une question pour un rabbin, ça. C'est une question qu'on doit se poser à nous-mêmes. On doit se poser à notre neshama. En tout cas, me concernant, moi qui est chaliar du rabbi, qui est émissaire du rabbi ici, d'accord? Je reste fidèle D'accord ? Je reste fidèle à ce que le rabbi dit. Que le rabbi dit qu'une fois, il y a quelqu'un qui a posé la question suivante au rabbi. Il a dit, pourquoi vous partez pas en Israël ? Alors, rabbi a dit, parce que j'ai tout le monde qui est ici. J'ai mes élèves qui sont ici et j'ai un travail à faire ici. Alors, il lui a dit, vous savez, c'était un général de l'armée. Enfin, un général, un haut gradé. Il a dit, vous savez, chez nous, comment ça marche en Israël ? En France, pas comme ça apparemment, mais en Israël, c'est comme ça. En Israël, vous savez comment ça marche chez nous ? Le commandant, il marche devant. Et il dit après moi.
Kadima.
Il dit après moi. Alors, il dit, vous aussi. Vous aussi, vous êtes le commandant. Alors, marchez devant et dites-leur après moi, ils vont vous suivre. Alors, rabbi, il dit, non, il y a une exception. C'est quoi l'exception ? L'exception, c'est les marines. Dans les marines, lorsqu'on est dans un bateau, la marine, et qu'il y a un bateau qui est en train de faire naufrage.
Ah, le capitaine est son dernier.
Non, ça dépend quel bateau.
Ah, d'accord. Qui c'est qui quitte le dernier le bateau ?
Le capitaine.
C'est le capitaine.
Sauf les Italiens.
C'est le capitaine. C'est le capitaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous aussi, on est dans un bateau. Parce que c'est la Gemara qui dit ça. Quand on est en galoute, on est comparé à un bateau. On est dans un bateau qui est en train de se noyer. En tout cas, qui a du mal à naviguer. D'accord ? Alors, Baruch Hashem, c'est bien qu'avec le temps, il y a des gens qui sentent que leur place est en Israël et qui sentent qu'ils vont plus exprimer leur judaïsme en Israël, etc. Et qui font leur lia. C'est une très bonne chose. Seulement, le dernier à quitter le bateau, c'est le capitaine. D'accord ? Je ne dis pas que je suis capitaine. Mais je dis en tout cas, quand on a un travail, tant qu'il reste un juif dans le 13e,
on va quitter. Honnêtement, il ne peut pas faire autrement. Parce que s'il encourage les gens à partir, il n'a plus de clients ici. Donc,
on n'est pas que.
Bah oui,
on n'est
bah
pas que. Monsieur Benita, on n'est pas clientéliste.
Non, non, on ne veut pas de clients.
Bah oui.
Non, on va parler. Tu sais, le capitaine, il peut faire aussi autre chose, c'est amener le bateau en Israël.
Quoi ?
Bah oui, s'il nous encourage.
Le problème, c'est que pas tout le monde a un bateau va en Israël.
Il n'y a plus personne avec qui il va discuter.
Il y a des gens qui sont bien dans la douce France. Alors.
On va être dans le aussi. Non, mais. Comment tu peux expliquer, Mandy ? Et on a constaté, surtout cette année, qu'il y a eu un boom de la Aliya.
Oui.
Mais attention, on parle de la Aliya au sens de l'agent juif, ok, clairement, 7000 ou 8000 personnes, c'est un boom. Est-ce que tous ont eu cette démarche idéaliste, à ton avis ?
Non.
Est-ce que tu veux un pourcentage
sécuritaire et économique ?
Je ne sais pas, on entend.
Je ne peux pas savoir.
Sécuritaire et économique, à mon avis.
On n'entend pas la redescente.
Il y a des, mais pas tous.
C'est suite à des événements.
D'abord, il y a beaucoup de redescendre, mais bon, ce n'est pas la question.
C'est lié aux événements qui...
Tu veux que je te réponde ? Je vais te dire, ça ne me concerne pas. Ça veut dire que la seule... Ça reste personnel, voilà. La seule personne qui le sait, c'est la personne elle-même. Tu peux avoir une personne qui est là, il a fait sa LIA parce qu'il pense que sa place est là-bas, mais qu'il n'a pas le choix, ça part d'un set ici, donc il va faire des allers-retours. D'accord ? Il va passer la majeure partie de la semaine là. Il va peut-être passer la majeure partie de la semaine dans l'atmosphère impure de la diaspora, mais c'est tout en Israël. Tu peux pas savoir. Personne ne peut parler à la place de la personne. C'est pas nos affaires.
Exactement.
Pas nos affaires. En tout cas, chacun de nous, il doit savoir que tant qu'il n'est pas arrivé à ce niveau-là, il faut pas envisager la LIA. C'est pas sécuritairement, c'est pas une raison. Si maintenant je sens que je...
En tout cas, en ce qui concerne la...
En réalité, c'est de quoi exactement ça fait 2000 ans qu'on n'a rien.
Pourquoi tu prends pas les événements comme étant un
individu ? Alors, subitement, il y a 50-60 ans, on a un truc fait par les Juifs. Peu importe, on ne discute pas. Religieux par religieux.
Oui.
Un truc fait par les Juifs pour les Juifs.
Oui.
C'est pas, je veux dire, c'est pas anodin. C'est pas comme si c'était. Il y a toujours eu une présence juive en Israël. Il y a toujours eu quelque chose.
Je comprends.
On a fait un cours il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, ou il y a 5 semaines plutôt, où on disait que il y a rien qui vient pas de la Casa de Morocco.
Bien sûr.
Donc si pendant 2000 ans il n'y avait pas d'organisation juive pour les Juifs sur sa terre, dans son palais, c'est qu'il y avait une raison.
Bien sûr.
Si subitement il y a une rupture au bout de 2000 ans et qu'il y a une organisation, cette organisation, c'est les Juifs pour les Juifs. Et que grâce à Dieu, merci mon Dieu, elle est pérenne, elle est solide, elle a de l'avance sur les autres. C'est pas innocent.
C'est un signe avant-coureur, c'est sûr ça.
C'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose.
Je dois répondre à la question. Répondre à vos deux questions. En fait, c'est très simple. Il faut faire la différence entre l'aspect collectif, l'aspect général et l'aspect individuel. Collectivement, tu as raison. Que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, il est en train de nous préparer à Machiav. Et le fait qu'en Israël, il y ait de plus en plus de Juifs. Et de plus en plus de Juifs qui respectent la Torah et les mitzvot et que ça avance, Baruch Hashem, ça avance, on est sur la bonne voie, ça avance. Ça veut dire que Dieu nous prépare. Ça, c'est collectivement. Mais individuellement, Dieu a fait, d'accord, que tes parents, lorsqu'ils sont venus du Maroc, ils sont venus en France. Ils auraient pu aller en Israël pour le même prix. D'accord ? Et ils ont été en Israël. Pourquoi eux, ils ont fini par revenir en France et t'as un oncle à la Vachalam qui est resté en Israël ? Pourquoi ? Tu parles parce que ton père, il était plus intelligent? Parce que ton père, il avait une façon de voir les choses?
Économiquement.
Parce que Dieu a dirigé ton père en France, parce qu'il sait que ton père et ses descendants, donc toi inclus et tes enfants inclus, ont une mission, leur neshama a quelque chose à récupérer ici. Je ne suis pas tzadik, je t'aurais dit quelle est cette mission si j'étais tzadik. Mais il y a clairement une mission. Donc de là, non mais attends, ça veut dire, de là à dire, je suis passé à côté, je perds mon temps, j'ai rien à faire ici, ça c'est une erreur. Dire, je sens que, ça y est, on a donné ce qu'on a fait, on a donné ce qu'on devait donner, maintenant on doit aller ailleurs. Individuellement, non, ce que je veux dire, c'est-à-dire collectivement, tu as raison que c'est un signe qui annonce Mashiach et qu'on s'approche, mais individuellement, je dois sentir que j'ai terminé mon travail.
C'est un signe qui n'est pas anodin. Il faut être aveugle pour dire qu'il n'y a pas quelque chose. Ce n'est pas le bon Dieu. C'est impossible. Écoute-moi bien. Des morts vivants qui sortent des camps, qui vont à la guerre et qui gagnent face à ces tueurs d'enfants, ce n'est pas possible. Et qui gagnent.
La guerre des 6 jours aussi.
Oui.
Chaque
guerre d'indépendance, toutes les guerres, même la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, on ne s'est même pas préparé, on a gagné.
Surtout la guerre d'indépendance.
Les autres guerres, c'est trop flagrant. La guerre d'indépendance, c'est des morts vivants qui sortent des camps.
Oui.
Ils ne savent même pas prendre un couteau pour couper un morceau de saucisson. Et ils gagnent face à 5 armées. Où c'est possible?
Pas possible. Mais c'est clair que c'est un miracle. Mais c'est clair ça que. Alors, deux secondes, très bien.
Le saucisson, c'est
ce que tu dis, tel que tu le présentes, tu dis que la terre d'Eretz Israël, c'est une terre dans laquelle on voit Kadosh Baruch Hu, on le voit justement au travers des guerres, on le voit au travers de la protection. On ne se rend pas compte le nombre de miracles qu'il y a. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Vous savez que tous les jours, il y a au moins une ou deux personnes, au moins un ou deux Arabes, et Marchemam, qui attaquent au couteau. Et à chaque fois, Baruch Hashem, ça n'aboutit pas. Mais je ne sais pas si vous imaginez le miracle. C'est-à-dire, c'est les gens qui viennent pour tuer. Et en général, quelqu'un qui vient pour tuer, il réussit. Normalement, il réussit parce qu'il est là pour tuer. Il est déterminé, il est prêt à mourir. Il est prêt à mourir. Non, mais je suis sérieux. Et ça se joue à des millisecondes. C'est-à-dire, ça se joue à des millisecondes. Et comment Akadosh Baruch Hu fait qu'il y a toujours une personne qui a une arme à côté, qui a un soldat qui est à côté, etc. Mais si on ne dit pas que Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu, il a les yeux rivés sur cette terre, je veux dire, c'est justement dans les situations comme ça qu'on le voit. Statistiquement, c'est impossible. C'est-à-dire quelqu'un qui est là avec un couteau, il est déterminé, il veut tuer. Il a toutes les chances possibles de venir derrière quelqu'un et de le poignarder, mais c'est pas possible. Je dis, mais ils sont remords ou quoi? Mais non, ils sont pas remords en plus. Oui, il y en a eu, mais c'est rien du tout par rapport. On voit que, après, c'est bien sûr qu'on est, ma chère n'est pas là. Ça veut dire que c'est clair que c'est une terre dans laquelle Akadosh Baruch Hu est présent, Akadosh Baruch Hu nous regarde, etc. Vu de cet angle, faire l'alia vu de cet angle, dire c'est une terre dans laquelle Dieu est présent et je veux aller dans cette terre parce que Dieu est présent et je veux plus ressentir Akadosh Baruch Hu, je décolle à Kavod, fais les billets, même sans la parnassa, Dieu t'enverra la parnassa. Ça oui. Et quand c'est dans une autre vision, non. Faut bien voir la différence. C'est-à-dire qu'on peut, encore une fois, je pense qu'on peut résumer le cours en deux mots, ce qu'on a dit. On peut vivre en Israël et résider en dehors d'Eretz Israël, c'est-à-dire que dans ma tête, je ne suis pas israélien, je ne réside pas en Israël. Et d'un autre côté, on peut habiter en diaspora et résider en Israël dans ma tête. Combien de fois on a vu des gens, par exemple, que lorsqu'il y a des guerres en Israël, ils ont les yeux rivés sur leur télévision, ou ils sont là en train de suivre ce qui se passe en Israël, plus que ceux qui y sont. Sans que c'est ma terre, c'est comme si on a touché à son frère, c'est son frère.
Bah oui. Quoi qu'il arrive, Mandy, on peut s'accomplir totalement qu'en étant en Eretz Israël.
C'est-à-dire... Certainement, mais on a une mission ici.
Voilà, je t'accorde. Voilà. Mais la véritable, finalement, définition du juif, c'est de vivre en Israël. Alors.
Je te reprends. La véritable définition du juif en diaspora. Excuse-moi, je termine. La véritable définition du juif en exil, c'est d'être en diaspora. Parce que notre but dans l'exil, c'est de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu en allumant une lumière dans l'obscurité. Ça, tu l'as de façon plus forte ici qu'en Israël.
Qui dit ici?
Parce qu'on est en mission. Voilà. Voilà.
Le but ultime, c'est d'aller en Israël.
Bien sûr qu'un but ultime.
C'est comme quand on est sorti d'Égypte, on est parti en Israël.
Donc ça, le but de ce cours à Botaï, c'était pour nous encourager.
Ceux qui voulaient rester dans le désert, qui ne nous ont pas voulu rentrer en Israël, ils sont morts dans le désert.
Bien sûr.
Les explorateurs sont morts dans le désert.
Excusez-moi, sauf que là, il y avait une mitzvah de Dieu d'aller en Israël. Aujourd'hui, il n'y a pas de mitzvah d'aller en Israël. Il n'y a pas de mitzvah d'aller en Israël.
Depuis le début, depuis la sortie d'Égypte.
Non. Aujourd'hui, vous n'avez pas de mitzvah d'aller en Israël.
La mitzvah a toujours existé.
Ah non, vous n'avez pas de mitzvah d'aller en Israël aujourd'hui.
Pourquoi?
Il n'y a pas de mitzvah. Il n'y en a pas ?
Il y en avait une. Il y en a une. Elle a disparu.
Non, non. Là, Dieu, quand on est sorti d'Égypte, Dieu a dit.
Vous habitez.
Dieu a dit. Non, non. Dieu a dit à Moïse, vous devez aller en Israël. Il y avait une mitzvah. Aujourd'hui, il n'y a pas de mitzvah en Israël. Non, attendez, il ne faut pas rajouter les mitzvot. Il n'y a pas de. C'est pas une mitzvah, c'est une très bonne chose, c'est extraordinaire, il n'y a pas de mitzvah. Non, non, il n'y a pas de mitzvah pour celui qui habite en France d'aller en Eretz Israël. Il y a une mitzvah que quand on habite en Eretz Israël, il faut construire la terre d'Israël.
Mais oui, mais ça n'a rien à voir. Il a dit à ces gens
du tout. Exactement.
Rentrer en Israël,
Rambam,
descendant, ça s'adresse aussi à nous.
En tout cas, Rabotai, celui qui sent, vous êtes prêts, vous. Alors. La vérité, je vais vous dire, avec la courte expérience que j'ai, avec la courte expérience que j'ai, ce que j'ai vu, c'est qu'en général, ceux qui font la liesse, c'est ceux qui en parlent le moins.
Exactement. C'est pas question d'en parler. C'est normal parce qu'ils vont la faire, ils n'ont pas besoin de parler.
Non, 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 non. Parce que c'est quelque chose de profond.
Profond.
J'en connais quelqu'un. C'est pas très loin.
Mais alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais dis-moi alors, mais qu'est-ce qu'on va devenir alors si tu t'en vas?
Moi, je m'en vais pas tout.
Alors, tu fais la liesse?
Bon, ça me rassure.
Je suis pas prêt encore.
Ça va. Hein?
J'étais prêt, je suis
prêt. Ah, c'est pas la liesse, c'est le même niveau, ça. Ouais, c'est niveau. On est toujours en. Elle est toujours aussi sale. Alors, conclusion, Rabotai. Conclusion, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien sûr que celui qui sent que sa neshama veut aller en Eretz Israël, et pour avancer dans la Torah et les mitzvot, pour s'élever, il doit le faire. Pas de problème avec ça. Cependant, nous autres qui sommes encore ici en France, et qui sommes encore dans Avir Eretz Samim, dans l'atmosphère sale, on doit se réconforter, on doit se rassurer, on doit se réjouir, il a employé le terme réjouir ici, en se disant que nous avons ici la possibilité de procurer une simcha à Kadosh Baruch Hu qu'on ne peut pas procurer en Israël. En Israël, il y a beaucoup de kdusha, donc bon, t'as allumé la lumière, mais c'est déjà allumé. Vous savez, en Israël, pour se démarquer de la foule, il faut vraiment être un géant. En Israël, il y a des géants Torah partout.
Tu marqué de la foule, tu veux te repasser.
Oui, non. Voilà. Je te dis par exemple, tu viens ici en France, dès que tu sais un peu lire, tu connais un peu la Gemara et tout, t'es devenu un rabbin. Mais en Israël, laisse tomber, t'es en Israël, t'es par terre.
Mais au moins, on est dans la lumière.
Mais, comment on est réconforté? C'est que ici, on est dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, quand t'allumes un peu de lumière, c'est plus de lumière, il fait un très très grand plaisir à Kadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'on fait au jour le jour, ici en France, dans Ma Douce France.
Bon, il s'appelle.
Bon, il reste plus qu'à...